Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hinges. Rumpelmeyer's men were coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning, fresh as if issued to children on a beach. What a lark, what a plunge. For so it had always seemed to her when, with a little squeak of the hinges, which she could hear now, she had burst open the French windows and plunged at Borden into the open air. How fresh, how calm. Stiller than this, of course, the air was in the early morning, like the flap of a wave, the kiss of a wave, chill and sharp, and yet, for a girl of 18 as she then was, solemn, feeling as she did, standing there at the open window, that something awful was about to happen, looking at the flowers, at the trees with the smoke winding off them and the rooks rising, falling. Standing and looking, until Peter Walsh said, "Musing amongst the vegetables." Was that it? "I prefer mang to cauliflowers." Was that it? He must have said it at breakfast one morning when she had gone out onto the terrace. Peter Walsh. He would be back from India one of these days, June or July, she forgot which, for his letters were awfully dull. It was his sayings one remembered. His eyes, his pocket knife, his smile, his grumpiness. And, when millions of things had utterly vanished, how strange it was. A few sayings like this about cabbages.
Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs, car Lucy avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de l'orgon, les serveurs de Rumpelmeyer allaient arriver. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway, toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plage. La bouffée de plaisir, le plongeon, c'est l'impression que cela lui avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds, qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres, à Burton, et plongeait dans l'air du dehors. Que l'air était frais, qu'il était calme, plus immobile qu'aujourd'hui, bien sûr, en début de matinée. Comme une vague qui claque, comme le baiser d'une vague, vif, piquant, mais en même temps, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennelle, pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir. Elle qui regardait les fleurs, les arbres avec la fumée qui s'en dégageait en spirale, et les corneilles qui s'élevaient, qui retombaient. Restant là à regarder, jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes ? Était-ce bien cela ? Ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs » ?» Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner, alors qu'elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait rentrer des Indes un jour ou l'autre, en juin ou en juillet. Elle ne savait plus exactement, car ses lettres étaient d'un ennui. C'est ce qu'il disait qu'on retenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis, alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre, une phrase comme celle-ci, à propos de choux.
"To the very end," I said shakily. I heard his very last words. I stopped in a fright. "Repeat them," she murmured in a heartbroken tone. I want something to live with." I was on the point of crying at her. "Don't you hear them?" The dusk was repeating them in a persistent whisper all around us, in a whisper that seemed to swell menacingly like the first whisper of a rising wind. The horror. The horror. "His last word, to live with," she insisted. "Don't you understand? I loved him. I loved him. I loved him." I pulled myself together and spoke slowly. "The last word he pronounced was your name." I heard a little sigh, and then my heart stood still, stopped dead short by an exulting and terrible cry, by the cry of inconceivable triumph and of unspeakable pain. "I knew it. I was sure." She knew. She was sure. I heard her weeping. She had hidden her face in her hands. It seemed to me that the house would collapse before I could escape, that the heavens would fall upon my head. But nothing happened. The heavens do not fall for such a trifle. Would they have fallen, I wonder, if I had rendered cause that justice which was his due? Hadn't he said he wanted only justice? But I couldn't. I could not tell her. It would have been too dark altogether. Marlowe ceased and sat apart, indistinct and silent, in the pose of a meditating Buddha. Nobody moved for a time. "We have lost the first of the ebb," said the director suddenly. I raised my head. The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under an overcast sky. It seemed to lead into the heart of an immense darkness.
Jusqu'au bout, fiche dans ton saccadé. J'ai entendu ces derniers mots. Je m'arrêtai, saisie. Répétez-les, murmura-t-elle d'un ton accablé. Je veux avoir quelque chose avec quoi je puisse vivre. Je fus sur le point de lui crier. Mais ne les entendez-vous pas ? L'obscurité autour de nous ne cessait de les répéter dans un chuchotement persistant, dans un chuchotement qui semblait s'enfler de façon menaçante, comme le premier bruissement du vent qui se lève. L'horreur. L'horreur. Son dernier mot. Que j'en puisse vivre ? Reprit-elle. Ne comprenez-vous donc pas que je l'aimais ? Je l'aimais. Je l'aimais. Je me ressaisis et parlons lentement. Le dernier mot qu'il ait prononcé, ce fut « votre nom ». Je perçus un léger soupir, et mon cœur ensuite cessa de battre, comme arrêté net, par un cri exultant et terrible, un cri d'inconcevable triomphe et de douleur inexprimable. Je le savais, j'en étais sûre. Elle savait. Elle était sûre. Je l'entendis sangloter. Elle avait caché son visage dans ses mains. J'eus l'impression que la maison allait s'écrouler avant que je n'eusse le temps de m'esquiver, que le ciel allait choir sur ma tête. Mais rien de pareil. Les cieux ne tombent pas pour si peu. Serait-il tombé, je me le demande, si j'avais rendu à Kurtz la justice qui lui était due ? N'avait-il pas dit qu'il ne demandait que justice ? Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais lui dire. C'était trop affreux, décidément trop affreux. Marlowe s'arrêta et demeura assis à l'écart, indistinct et silencieux, dans la pose de Bouddha qui médite. Personne, pendant un moment, ne fit un mouvement. « Nous avons manqué le premier flot de la marée, » fit l'administrateur, tout à coup. Je relevais la tête. L'horizon était barré par un banc de nuages noirs, et cette eau, comme un chemin tranquille, mène aux confins de la terre, coulait sombre, sous un ciel chargé, semblait mener vers le cœur même d'infinies ténèbres.